plein de cure, son enclos protecteur, où coule sans drame un ciel hachuré de montagne, Rousseau est un homme d'extérieur, un marcheur, un observateur des subtiles nuances des bois, des champs, des bords de route, fleurs et fruits, et traces d'animaux. Pourquoi ne serait-il pas intéressé aussi aux champignons qui poussent en abondance sur les pentes humides des forêts, sous mes pieds? Presque un vagabond aux yeux de la société bourgeoise, méfiante comme de juste envers un étranger, soupçonneuse devant ses activités, ses longues absences dans les bois, sa manifeste indifférence aux conventions familiales et sociales. On jettera même des pierres contre sa maison, et les bons pasteurs de Neuchâtel se déchaîneront contre lui, contre ses idées ouvertes, paradoxales, qui sont des questions plus que des affirmations. Car la société, telle qu'elle l'est, il le sent, est en train de sombrer. Et pour moi, Rousseau est plus proche des aborigènes australiens, ses discrets et puissants voisins, anciens princes nomades du désert, que de ses contemporains à jabot de dentelle. C'est bien moi qui fais ce rapprochement anachronique, spatialement imaginaire et pourtant confirmé par la proximité des œuvres suspendues dans leur complexe et secrète exubérance, avec les aborigènes que les explorateurs européens rêvaient en bons sauvages dans ce 18e siècle finissant et encore au début du 19e siècle. Tous, du capitaine au plus simple marin, marqués par le mélange d'idéologies de leur époque, les derniers feux d'un ancien régime exténué et d'un christianisme essoufflé, transmué en un moralisme sentimental que la Révolution française reprendra avant de noyer tout ça vigoureusement dans le sang et de passer à l'exploitation méthodique du monde. Tous marqués par la nostalgie d'un âge d'or et le désir d'un territoire encore vierge, où les naturels présenteraient un modèle parfait de vie sauvage, redonnant ainsi à la vieille civilisation européenne un nouveau souffle. J'imagine qu'ils ont lu la nouvelle Héloïse et qu'ils l'emportent dans leur bagage en même temps que les voyages de Cook et de Bougainville. Voici que Rousseau, sans le savoir, a participé à la découverte du dernier continent et à celle de ses habitants, dont les descendants sont arrivés jusqu'ici, dans cette bourgade, aux maisons cossues, aux larges artères bordées de tilleuls où passeraient de fronts troupeaux et chars de foin. Les aborigènes, arpenteurs de territoires à la fois réels et rêvés, qu'ils reproduisent et interprètent dans leurs œuvres, peintures, chants et danses, connaisseurs intimes du monde qui les entoure, plantes, animaux, rochers, trous d'eau, sont toujours aujourd'hui mêlés au monde moderne, malgré eux, comme Rousseau, qui déjà n'aimait guère son époque et qui serait chagriné par la nôtre. sur les traces de l'écrivain, découvrant par hasard un de ses lieux intimes, mes pieds dans des sandales impropres à la marche que je finirai par enlever, pieds nus sur le sentier glissant, tout à fait seul, dans le clair et frais matin de ce dernier jour de septembre, écoutant, regardant, l'esprit vacant et léger. Rien ne m'encombre. Je ne sais pas où mène le sentier que j'ai pris au hasard de ma course, choisissant une montée pas trop raide pour mes pieds mal chaussés et suivant intuitivement une autre piste, celle des champignons, me fiant uniquement à un panneau qui indiquait une cascade. Les oiseaux chantent comme au printemps, avec un dernier élan avant les nuits froides d'octobre. Juste pour moi. Lorsque le sentier commence à redescendre, fugitivement m'apparaît l'image de Rousseau. Je le vois marchant devant moi, en culotte de peau, le mollet rond dans les barres de coton, le dos souple sous la redingote, chaussé de bons souliers, un bâton à la main, sans perruque, coiffé d'un chapeau à large bord pour se protéger du soleil et de la pluie. Je le retrouve quelques minutes plus tard, assis sur un tronc d'arbre, dans la grotte aux chauves-souris devant la cascade. Une cascade plus fournie au printemps qu'en cette fin d'été, où elle coule sans excès, paresseusement. Comment aurais-je pu savoir que je me dirigeais vers un de ces lieux secrets, comme nous en cherchons tous, où méditer et écouter le silence de ses propres artères, le bruissement des bois. Je ne veux pas déranger le promeneur dans sa bonne solitude pensive, mais il me salue aimablement en soulevant son chapeau, me prenant sans doute, avec ma culotte courte, mes pieds nus et mes cheveux en bataille, pour un pâtre à la recherche de quelques chèvres égarées. Nous ne nous parlons pas, c'est une scène muette. La distance entre nous reste infranchissable. Que comprendrait un berger aux tourments du philosophe, à son orgueil, à son chagrin ? À moins que ce ne soit lui, ayant traversé les strates du temps, figure aimable et bienveillante, apaisée désormais, qui n'ait plus besoin de parler. Je l'imagine, de toute façon comme un causeur un peu maladroit, toujours mal à l'aise dans les salons de son temps, plus heureux en compagnie des vaches et des fleurs qu'en celle des hommes à perruque et des femmes poudrées qui minaudent et persiflent. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il s'est battu, s'est lamenté, a aimé aussi, et maintenant il chemine paisiblement pour toujours sur le sentier qui mène à la cascade, sa cascade, dans le bois éclaboussé de soleil où chante la fauvette. Je devine la présence de Rousseau plus que je ne pense à lui. À quoi pense-t-on quand on marche? Pensée liquide, quelquefois tournoyantes, insistantes, qui viennent et repartent comme un flux, rien de fixe, à moins d'une préoccupation lancinante. Et alors, la marche a pour fonction de nettoyer l'esprit, le vider, le purger. Je suis dans cette délicieuse et fraîche solitude, la seule promeneuse, et Rousseau est une ombre. je ne suis encombrée d'aucune idée, d'aucun livre, d'aucune référence, ignorante comme au premier jour. C'est pourquoi je parviens à la cascade sans idée préconçue, et je m'étonne d'y trouver gravé dans des cailloux de cuivre l'écriture fine du philosophe. Je marche alors avec une conscience plus instruite, précisément, exactement sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Suivant les cailloux semés par quelques initiatives culturelles, tout à fait louables, mais qui repoussent, paradoxalement, la présence bienveillante de Rousseau dans les ombres vertes du sous-bois, où il retourne se cacher, n'appréciant guère cette officialisation de ses rêveuses promenades.